L'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Queyrouga. Kevin Jean, bonjour.
Bonjour.
Tu es président de Sciences Citoyennes et tu es membre d'ATTAC et aujourd'hui on va parler de géo-ingénierie. Alors déjà tu peux nous présenter qu'est-ce que c'est que Sciences Citoyennes et son rapport à la critique des sciences ?
D'accord, donc Sciences Citoyennes, c'est une association nationale qui a pour objectif une réappropriation citoyenne et démocratique des sciences, avec l'idée derrière ça de mettre les sciences au service du bien commun. Et on intervient dans beaucoup de thématiques qui lient sciences et société. Ça va être la défense des lanceurs d'alerte, par exemple, la critique de l'expertise, l'orientation des politiques de recherche et également une analyse critique de promesses scientifiques sur des technologies controversées, par exemple tout ce qui est manipulation du vivant avec l'édition du génome ou le forçage génétique et également manipulation du climat avec la géo-ingénierie. Donc on produit une analyse critique des promesses de ces technologies. On essaie de les remettre dans leur contexte, de dénouer le vrai du faux dans ces technologies.
Oui, alors c'est parce qu'il y en a besoin finalement, parce que la science, elle avance un petit peu toute seule.
Elle avance toute seule, elle avance aussi à coup de grandes promesses qui sont là parfois pour lever des fonds qui ne sont jamais réalisés et qui donnent toujours l'impression que la science se fait de manière inéluctable. On a un peu ce fatalisme ambiant alors que non, la science, c'est des décisions qui sont prises et il faut que les citoyens reprennent la main sur ces décisions.
Toujours avec cette notion du progrès, que plus de savoir, plus de technique ou de technologie, c'est pour le bien de l'humanité ?
Ouais, alors c'est ce qu'on met derrière le mot progrès. Hein. Est-ce que tout progrès technologique est un progrès humain ? C'est une des grandes questions. Et ça nécessite un regard critique hein, pour dissocier, savoir si des technologies de reconnaissance faciale sont un progrès humain, enfin un progrès technologique, une innovation technologique, oui. Est-ce qu'on peut qualifier ça de progrès ? Je ne sais pas. Je serais beaucoup plus critique là-dessus. Et on est de même pour la géo-ingénierie, notamment tout ce qui est manipulation du climat, technologie de manipulation du climat, où là, quand on regarde un peu plus près, c'est difficile de parler de progrès vu les futurs que ça nous promet.
Donc aujourd'hui, Kevin Jean, donc tu es président de Sciences Citoyennes et membre d'ATTAC. Il y a toute une question autour de la géo-ingénierie. Ce sont des techniques qui ont été vraiment promues depuis la COP21, l'accord de Paris en 2015.
Oui, alors quand on parle de géo-ingénierie, le terme regroupe toutes les techniques qui visent à pallier au réchauffement climatique en modifiant le climat à l'échelle planétaire. Et en général, il y a deux grandes catégories de technologies dans la géo-ingénierie. Il y a celle qui vise à réduire le rayonnement solaire qui nous parvient du soleil, donc avec plusieurs stratégies, par exemple diffuser des aérosols dans la stratosphère, et d'autres technologies qui visent à capter le CO2 de l'atmosphère pour le transférer dans des compartiments géologiques océaniques qui ne participera plus à l'effet de serre.
Pour faire un petit peu un historique, dans la géo-ingénierie, on a surtout entendu parler au début de sortes de grands parasols qui pourraient être déployés pour limiter le rayonnement solaire. Enfin, ça a été un petit peu abandonné ?
Alors, dans l'historique de la géo-ingénierie, effectivement, c'est les premières technologies qui ont été mises en avant. On a visé à réduire le rayonnement solaire. Alors, l'histoire des parasols qu'on va envoyer dans l'espace ou des miroirs interstellaires, ça, c'était plus un gag qu'autre chose. Mais l'idée de mimer, par exemple, des éruptions volcaniques, d'envoyer des particules de soufre dans l'atmosphère, on s'est rendu compte qu'après une éruption volcanique, la température moyenne à l'échelle du globe diminue parce qu'il y a moins de rayonnement solaire qui parviennent. Il y a plus de rayonnement solaire qui est réfléchi dans l'espace. Et donc, des scientifiques ont eu l'idée d'utiliser ces technologies et de diffuser avec des petits dirigeables, des avions, des particules de soufre dans l'atmosphère, avec l'idée de renvoyer du rayonnement solaire. Et donc ça a été les premières technologies qui ont été mises en avant à la fin des années 2010. Ça a été un peu laissé tomber parce qu'il y a eu des textes internationaux qui ont essayé de bannir ces technologies. Et parce qu'on se rendait compte qu'elles avaient beaucoup d'aspects négatifs risqués. Donc ça a été un peu mis en stand-by, on n'en parlait plus trop autour notamment de la COP21, on n'en parlait plus trop. Mais là, très récemment, depuis l'an dernier, on en reparle, notamment parce qu'il y a une expérience qui est en train de se monter aux États-Unis avec des gros financements. Et donc pour l'instant, on est à l'échelle locale, hein, mais on a un des grands promoteurs de la technologie qui a lancé ce programme qui s'appelle StratoShield. Et qui vise à expérimenter cette technologie. Donc là, il y a un regain d'intérêt sur ces technologies-là.
Alors juste pour qu'on comprenne un peu comment on peut arriver à imaginer des technologies qui modifient au niveau planétaire le climat. C'est quand même quelque chose de gigantesque. pour prendre juste un petit peu de recul, comment on en est arrivé là? Ça évite de se remettre en cause, c'est bien ça. On se dit on va continuer à polluer exactement pareil, trouvons une solution technique ou technologique et créons de la richesse. Il y a peut-être aussi cette illusion qu'on va encore créer de la richesse. Alors bien sûr, l'entreprise qui va développer cette technologie va devenir extrêmement riche, mais peut-être avec une vision un peu philanthrope. Comment on peut imaginer les gens qui conçoivent ça?
Alors effectivement, donc à l'origine, la première personne qui a parler de géo-ingénierie, c'était Paul Crutzen, prix Nobel de chimie au début des années 2000. Et c'est le premier qui a dit, bon, là, sur les objectifs de diminution des émissions, on n'y arrive pas. Donc, il peut être prudent d'envisager un plan B au cas où on n'arrive pas à réduire les émissions dans la mesure qui est nécessaire pour limiter le réchauffement climatique. Mais on voit très vite le problème qu'a cette stratégie. C'est-à-dire que dès qu'on dispose d'un plan B, bah, on est peut-être un peu moins regardant sur le plan A et ça peut, voilà, ça peut démotiver sur l'objectif prioritaire qui est celui des réductions des énergies. Donc il y a ce problème-là. Et au niveau on va dire, des acteurs autour de la géo-ingénierie, il y a effectivement ce genre de phénomène. C'est-à-dire que pendant longtemps, il y avait deux scientifiques qui étaient vraiment très clés dans tout ce qui était commission internationale, rapport d'experts sur la géo-ingénierie, qui étaient deux Nord-un Américain, un Canadien, un Américain, donc qui faisaient partie des promoteurs de la géo-ingénierie. Et en fait, très vite, on s'est rendu compte que ces deux personnes, qui étaient par ailleurs des scientifiques reconnus dans le domaine de la climatologie, avaient chacun une start-up dédié à, l'un était dédié à la diffusion d'aérosols dont j'ai parlé, l'autre une start-up lancée dans la captation du carbone. Et là, on voit bien l'enjeu qu'il y a derrière ça. Si on a des brevets qui sont dans les tiroirs et qui sont prêts à être déployés, dès qu'on a un feu vert sur la géo-ingénierie, ben, voilà, on sait qui va rafler la mise. Et donc, c'est vraiment très gênant dans ce domaine d'avoir ces deux personnes qui sont centrales, qui sont dans toutes les commissions d'experts, qui sont dans les rapports qui sont auteurs, co-auteurs des rapports du GIEC également, et qui sont voilà, des promoteurs à la salle de la géo-ingénierie, toujours sous l'aspect de « il nous faut un plan B », mais en éludant complètement l'effet que ça peut avoir sur les négociations internationales, les réductions d'émissions de gaz à effet de serre.
Alors là, il y a aussi la question de la justice climatique, parce que bien sûr, ce sont les pays les plus riches qui polluent le plus et qui impactent les pays les plus pauvres. Et avec la géo-ingénierie, on va continuer à avoir ces impacts parce que ce n'est pas neutre. Bon, on en parlera tout à l'heure, mais en tout cas, ça va continuer d'enrichir les plus riches.
Oui, tout à fait. Alors, il y a cet aspect hein, d'enrichissement personnel de personnes qui ont des startups. Mais effectivement, le problème, enfin, l'un des soucis avec la géo-ingénierie, c'est que principalement, ce sont des technologies qui laissent penser qu'on peut rester sur le statu quo, avec des pays du Nord qui émettent énormément de CO2 et les pays du Sud qui vont en payer les conséquences, en gros, qui ne vont pas avoir les technologies pour se prémunir ou s'adapter au changement climatique. Et en termes d'injustice mondiale, géopolitique, ce qu'on voit également sur certaines technologies, c'est que les effets négatifs de la géo-ingénierie vont être payés par des pays du Sud, qui sont les moins responsables historiquement du problème de réchauffement climatique. Et donc là, on a un problème effectivement de justice climatique. En gros, si on regarde les projections de modélisation sur l'effet qu'aurait la diffusion massive d'aérosols dessous dans l'atmosphère, le climat, c'est un système complexe et on ne peut pas imaginer juste diminuer la température sans toucher à d'autres éléments. Et donc, d'après les modèles climatiques, si on développe cette technologie, il y aura des répercussions notamment sur les pluviométries, les régimes des pluies, les moussons, et ça peut même perturber complètement la mousson. Alors quand on sait que la mousson, c'est ce qui permet de nourrir à peu près 2 milliards de personnes, là on voit bien quel est l'enjeu et pourquoi, quelque part, ben, des pays du Nord vont être intéressés à mettre en avant ces techniques qui leur permettent de pas du tout remettre en question leur niveau d'émission, tout en faisant payer l'addition par des personnes qui sont les moins responsables historiquement du problème.
D'accord. C'est intéressant de justement prendre un peu de l'envol sur tout ça. Donc, Kevin Jean, on va rentrer un peu plus en détail. Donc, aujourd'hui, on va parler surtout des technologies qui sont aujourd'hui vraiment mises en avant, donc à émissions négatives. Donc, c'est principalement stockage de carbone. Alors, quelles sont-elles? On va rentrer un peu plus en détail.
Ok, donc il y a plusieurs technologies à émission, ce qu'on appelle des technologies à émission négative. Déjà le nom est assez rigolo, hein, c'est un très joli oxymore. On les appelle également techniques de capture séquestration carbone. Quand on parle d'énergie négative, d'émissions négatives, pardon, c'est que le bilan global doit être négatif, c'est-à-dire qu'on doit capter plus de CO2 qu'on en émet. Alors, il y a plusieurs technologies qui, sur le papier, permettent de le faire. La plus facile, la plus simple, c'est celle de planter des arbres, finalement, la forestation. Quand on plante des arbres, on capte du CO2 dans l'atmosphère. On capte du CO2 de l'atmosphère pour le transformer en biomasse. Dans les autres technologies, ce qu'on appelle technologie, parce que planter des arbres, bon, je ne sais pas si on peut qualifier ça de technologie, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qu'on maîtrise. Une autre vise à jouer sur les océans. Il s'agirait, en gros, d'artificiellement générer des blooms d'explosion de croissance du plancton, par exemple en déversant du fer dans les océans, pour que le plancton capte du CO2 atmosphérique et ensuite redescende en bas des couches océaniques. Et là, ça permettrait, sur le papier, de capter énormément de CO2. Bon, on voit, il y a eu quelques expérimentations en pleine eau sur ces questions. On a vu que les rendements sont bien moindres que ce qu'on peut avoir sur le papier. Et en plus, c'est un peu un jeu assez négatif parce que le plancton va croître à un endroit de l'océan, capter énormément de ressources alimentaires et capter du CO2, mais au détriment d'autres régions des océans. Donc, on a un jeu à somme nulle. Donc, les forêts, les océans, et on a également des solutions purement technologiques qui visent, avec des grands échangeurs, à capter et concentrer du CO2 de l'atmosphère pour le passer là directement dans des couches géologiques. C'est ce qu'on appelle la capture directe du CO2 atmosphérique. Bon, pour l'instant, ça marche à des rendements qui sont ridicules, ça consomme énormément d'eau. Une des techniques qui, par contre, est la plus mise en avant, c'est celle qu'on appelle les BECCS. Alors, les BECCS, ça veut dire quoi en anglais? C'est les bioénergies avec capture et séquestration du carbone. Alors, qu'est-ce que c'est? Le terme est un peu barbare. Qu'est-ce que c'est? En fait, les BECCS, ça veut juste dire qu'on va produire de la biomasse, donc des arbres à croissance rapide, et on va les faire brûler dans des centrales à biomasse. La combustion de ces arbres va permettre de générer de l'électricité. Et l'idée, ce serait de capter le CO2 en sortie de ces usines pour ensuite l'injecter dans des couches géologiques. Donc, on voit que c'est un jeu à somme nulle. Et ça, sur le papier, c'est super, parce qu'on capte du CO2 tout en produisant de l'énergie. Le seul problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas faire. En gros, il y a eu quelques expérimentations, mais on s'est très mal capté le CO2 en sortie d'usine à biomasse parce que le combustible est inhomogène, on n'arrive pas bien à le faire. D'après les projections, pour capter l'équivalent de ce que l'être humain rejette dans l'atmosphère, il faudrait en plus des surfaces agricoles gigantesques pour produire cette biomasse. On parle de surfaces grandes comme une à deux fois l'Inde, la surface de l'Inde, et donc là, ça pose des problèmes évidents. Sur quoi on prend ces surfaces? Est-ce qu'on les prend sur des surfaces agricoles? Et là, on voit bien les problèmes que ça va avoir en termes de ressources alimentaires. Est-ce qu'on les prend sur des espaces naturels? Et donc là, si on remplace des espaces naturels par des monocultures d'eucalyptus ou d'arbres à croissance rapide, on a certaines études qui nous disent que finalement, l'équivalent en termes de perte de biodiversité serait celle d'un réchauffement climatique de 3 degrés. Donc on voit qu'on gagne peut-être sur le plan climatique, mais on perd sur les autres tableaux. Donc ces technologies des BECCS, sur le papier, elles sont magiques. Dans les faits, on n'arrive pas, on n'est pas capable de les mettre en œuvre et on n'est pas capable même d'imaginer pouvoir les mettre en œuvre dans l'ampleur requise pour contrebalancer les émissions. Donc voilà les principales technologies à émissions négatives qui sont discutées.
Alors il y a aussi la captation par les sols via une meilleure gestion des sols, notamment au niveau agricole.
Oui, tout à fait. Alors ça, la gestion des sols avec le changement des pratiques agricoles, pour le dire vite, aller vers des pratiques d'agroécologie, avec de l'agroforesterie, mettre des arbres sur les cultures, du semis sous couvert, le non-labour des sols, c'est quelque chose qui permet de capter du CO2 dans les sols. En gros, les sols sont un puits naturel à CO2, mais avec des techniques d'agriculture intensive telles qu'on les pratique en France notamment, en fait, les sols relarguent du CO2, l'agriculture est génératrice de CO2, elle émet du CO2 là où elle pourrait en capter. Et donc, on se rend compte qu'en changeant largement les pratiques, on pourrait capter du CO2 plus qu'en émettre, ce qui est très positif. Alors, on est sur une technique de captation de CO2. Pour autant, c'est une technique que j'aime pas vraiment rapprocher de la géo-ingénierie. Pourquoi ? Parce que, en fait, dans la notion de géo-ingénierie, on a cette impression que ce sont des techniques qui sont captées entre très peu de mains. Peu de personnes ont les leviers. Alors qu'une technique, le changement de gestion agricole, là, c'est quelque chose qui va se diffuser, qui sera pris en main par différents acteurs et on n'aura pas cette captation de la technologie. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose que j'aime pas forcément rapprocher de la géo-ingénierie parce que ça a tendance à adoucir le message, faire passer la pilule de la géo-ingénierie en disant « Mais regardez, la géo-ingénierie, c'est aussi de l'agroforesterie. » Alors que l'agroforesterie, c'est une les changements des pratiques agricoles ont cet effet bénéfique pour le climat, ça c'est reconnu. Mais voilà, il faut pas les, enfin, je ne pense pas qu'il faille les mélanger au risque de normaliser un peu toutes les autres techniques dont on a parlé.
Bon, en tout cas, c'est une technique de captation du CO2 très, très importante, naturelle, qui a toujours existé. Et avec une meilleure gestion agricole, on peut faire un énorme travail de captation de CO2.
Oui, tout à fait. On se rend compte que des sols agricoles, des prairies, des champs en agroforesterie captent autant de CO2 que des forêts, par exemple. Mmh. Et ont un impact, enfin, un bilan en termes de biodiversité qui est à peu près équivalent. Donc une agriculture bien faite, on va dire, est vertueuse d'un point de vue climatique et d'un point de vue de la biodiversité. Après, sur les estimations, les bilans de captation de CO2 qu'on pourrait avoir si, par exemple, tous les sols agricoles passaient en agroforesterie, on se rend compte que même si on aurait quelque chose, enfin une captation nette de carbone, on est très loin de compenser toutes les émissions des autres secteurs d'activité. Donc, même si on va vers ça, ce qui est souhaitable d'un point de vue de santé alimentaire, d'un point de vue biodiversité, d'un point de vue climat, ça ne permet pas de faire l'impasse sur les réductions dans les autres secteurs.
La complainte du progrès. Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio. Une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteaux. Une tourniquette pour faire la vinaigrette. Un bel aérateur pour bouffer les odeurs. Des draps qui chauffent, un pistolet à gaufres, un avion pour deux. Et nous serons heureux. Autrefois s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre, on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant, que voulez-vous? La vie est si chère. On dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah, Gudule, excuse-toi ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou, la tourniquette à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, aux chauves-savates, aux canons à patates, à les ventres tomates, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois.
Voilà, alors finalement, Kevin Jean, tout ce qu'on comprend de cette, je dirais, utopie de la géo-ingénierie, c'est que on imagine des technologies à l'échelle planétaire pour arriver à des émissions négatives et donc limiter les effets des gaz à effet de serre qu'on produit actuellement liés à notre industrialisation de tout notre mode de vie. Finalement, ce qu'il faudrait, c'est faire des efforts partout. Avoir une meilleure gestion des forêts, une meilleure gestion des océans, une meilleure gestion de nos sols. Et finalement, c'est un effort collectif. C'est un peu comme la question de la maîtrise des énergies et de réfléchir à un mix énergétique. En fait, il faut des efforts partout, de tous les secteurs de la société. C'est pas juste une solution technologique qui va arriver à bout de ce problème de changement climatique.
Oui, c'est tout à fait le cas. Là, si on regarde un peu ce qui se passe dans les projections des modèles climatiques utilisés par les climatologues, et notamment celles reviewées par le GIEC, on a dans tous les scénarios, en fait les scénarios climatiques reposent sur des scénarios socio-économiques qui eux-mêmes reposent sur des hypothèses de croissance, donc qui ne remettent pas du tout en cause, on va dire, les grandes tendances de la société. Et bien dans ces modèles, pour les faire tenir des objectifs climatiques à 1,5-2 degrés, on a plus de 80% des modèles des climatologues qui reposent sur des hypothèses de géo-ingénierie type captation carbone ou type BECCS, et en plus à un horizon temporel très proche. Aux alentours de 2030, on devra capter massivement des émissions de CO2 avec le BECCS. On ne sait pas faire, la technologie n'est pas mature, on a les gros problèmes d'occupation des sols dont on a parlé. Pour autant, ce sont ces technologies qui sont discutées dans les négociations internationales. Donc là, on est vraiment dans de la pensée magique. On parle de technologies qui ne sont pas du tout, existantes. On parle de replanter des arbres alors qu'on n'arrive même pas à endiguer la déforestation. On est vraiment dans la pensée magique. Et donc, ce que ça nous dit, c'est qu'il est illusoire de penser qu'on peut vraiment être sérieux par rapport à la question climatique sans remettre en cause les émissions dans tous les secteurs d'activité, dans le bâtiment et les énergies, évidemment. Donc ça, ça passe par ce qui est prôné dans les scénarios type négawatt, hein, de plus de sobriété d'abord, plus d'efficacité énergétique, puis des énergies renouvelables. Ça passe par une nouvelle vision de la mobilité et des transports. Ça passe par des pratiques agricoles changées là aussi. Ça passe par des secteurs industriels décarbonés. Et donc, ça nécessite des efforts dans tous les pans de société. Et donc, ces solutions, on les connaît. On sait ce qu'il faut mettre en œuvre. Ces solutions, on en a dans les transports, dans les énergies. Elles sont réalistes. C'est les seules qui sont réalistes, bien plus réalistes que les solutions basées sur de la technologie, enfin sur du techno-scientisme. Et la plupart de ces, enfin, à titre personnel, moi, je les trouve vraiment souhaitable, convivial. Sur la question des transports notamment, il y a un bouquin qui est sorti récemment qui s'appelle Renaissance écologique de Julien Dossier, qui imagine ce que serait un secteur des transports décarboné avec des flottes de voitures électriques partagées, des mobilités et une géographie qui est retransformée de fait à avoir besoin de moins de mobilité pour la vie de tous les jours, beaucoup plus de partage, voilà, une économie beaucoup plus conviviale, beaucoup plus souhaitable, beaucoup plus juste.
Par exemple, donc on parle effectivement des transports. Les transports sont émetteurs de gaz à effet de serre. Je crois que c'est 15-20% en France. Enfin, c'est un secteur très, très important. Et du coup, la voiture électrique, moi, je me pose la question quand même. Elle est présentée comme la solution, mais l'électricité, c'est pas magique, faut la produire.
La voiture électrique a quelques avantages, ok. Néanmoins, de toute façon, il faut pas s'imaginer qu'en transférant tout le parc automobile français du moteur thermique au moteur électrique, on va régler la question parce que ça pose des problèmes de ressources, des problèmes de production énergétique. Et donc, de toute façon, la solution ne viendra pas si on n'abolit pas l'autosolisme, le fait de ne pas du tout remettre en cause la place de la voiture dans la ville et la voiture dans la mobilité. L'illusion de passer au tout électrique dans la mobilité sans remettre en cause là aussi nos habitudes, non, ce n'est pas une solution d'un point de vue global.
D'accord. Et il y a eu des études récentes là, faites sur les trottinettes électriques. C'est aussi très, très désastreux d'un point de vue environnemental parce que c'est un report principalement des déplacements piétons sur un déplacement énergivore. Et il y a aussi les vélos électriques qui prennent la place des vélos ordinaires. Il y a aussi maintenant les motos électriques. Donc, c'est une vraie question, la mobilité électrique, parce que moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est présenté comme la solution pour limiter les pollutions. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui s'érige contre ça. Bah, Kevin, toi, je te demandais ça en tant que président de Sciences Citoyennes, parce que vous êtes quand même une asso qui regroupait des gens critiques par rapport aux techniques.
Oui, bien sûr. La question est vaste. Hein. Si sur le vélo électrique, on reporte encore une fois des trajets qui se faisaient en vélo classique vers un vélo électrique, finalement, on est sur un effet rebond et une demande énergétique qui augmente. Si on arrive à substituer des trajets en voiture via du vélo électrique, là, c'est un gain. Mais encore une fois, il faut faire attention aux usages. Ça, c'est le problème de tout ce qui est effet rebond. Dès qu'on a des technologies, des solutions qui augmentent la productivité ou le rendement et que finalement, ça génère plus de demandes, d'un point de vue global, on y perd finalement parce qu'on a beaucoup plus de demandes sur une solution sur quelque chose qui était censé faire des économies. Ça, c'est connu dans tous les secteurs, dans le numérique, dans l'éclairage, dans la mobilité. Et l'exemple que tu donnes sur les trottinettes électriques, je le trouve pour le coup hyper marquant parce que ça, on a vu le déploiement de ces trucs en 2 ans où ça a envahi les trottoirs, où on n'a aucun recul sur la durée de vie. Je crois que la durée de vie d'une trottinette électrique, c'est moins de 30 jours. On a un problème de régulation de cette mobilité-là. C'est-à-dire que les pouvoirs publics n'ont pas su réagir à ce déploiement. Et encore une fois, on est sur une régulation qui court après le fait accompli. Et on pose les questions dans le mauvais sens, quoi.
Alors, si on revient sur le sujet principal de notre émission, pour conclure, la géo-ingénierie et toutes ces technologies à émissions négatives qu'on essaye de déployer pour limiter les gaz à effet de serre, on le disait, donc il faut des solutions, et c'est dans tous les pans de la société finalement qu'on peut mettre en place des solutions simples de gestion des sols, des forêts, des océans, maîtrise de la consommation des énergies, énergie renouvelable, une autre mobilité. Aujourd'hui, il y a quand même un manifeste au niveau mondial qui est porté par notamment ATTAC, dont tu es aussi membre, Kevin, pour alerter justement sur l'illusion de technologies massives pour limiter les gaz à effet de serre. Est-ce qu'on peut vous rejoindre ? Est-ce qu'on peut s'allier à ce mouvement qui est porté par différentes ONG au niveau international pour dire que nous aussi, en tant que citoyens, on voudrait limiter ces technologies ?
Oui, alors justement, la question des moyens de résistance, d'opposition à la géo-ingénierie, elle n'est pas simple. Parce que c'est quelque chose sur lequel le citoyen semble avoir vraiment peu de levier. Donc, c'est ce qu'on fait avec ATTAC et Sciences Citoyennes, d'un point de vue de sensibilisation du grand public. Le message, c'est que c'est une fausse solution. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Pour l'instant, la résistance au développement de ces technologies, elle venait d'ONG, notamment une ONG canadienne qui s'appelle ETC Group, qui travaille en réseau et qui fait un très bon boulot, notamment dans tout ce qui est sphère diplomatique et négociation internationale. Et là, ETC Group est aussi à l'origine de ce manifeste, donc, qui s'appelle Hands Off Mother Earth, donc en français, bas les pattes, ne touchez pas à la terre-mère, qui est un manifeste qui regroupe des associations environnementales ou de justice climatique comme ATTAC ou Sciences Citoyennes, également des associations qui regroupent des peuples autochtones qui ont le plus à perdre en termes de solutions technologiques au climat, si on parle encore une fois de remplacer des espaces naturels par de la monoculture, ce sont ces peuples qui ont le plus à perdre, et également des groupements, des collectifs d'agriculture paysanne. Et donc, c'est là le premier manifeste qui a été signé par une centaine d'organisations à travers le monde et qui veut donner visible, en gros, le fait que la société civile se saisit du problème et n'est pas dupe et ne va pas se laisser faire sur ces questions-là. Et donc, c'est là-dessus que, enfin, c'est sur ce manifeste d'une centaine d'organisations à travers le monde, dans plusieurs pays, plusieurs dizaines de pays, qui va servir de support, là aussi, pour faire du plaidoyer dans les discussions internationales, là où se décident les moratoires, les autorisations sur des expérimentations ou de la pratique de géo-ingénierie.
Donc on peut, maintenant qu'on est informé sur la géo-ingénierie, se dire, bon, peut-être prêt à intervenir s'il y a des actions de désobéissance civile qui s'organiseraient sur ces questions-là prochainement, parce qu'il y a quand même des projets déjà en cours, notamment dans le sud-ouest, il y a à Lac, une usine de séquestration de CO2. Il y a peut-être des choses à faire pour montrer qu'on n'est pas d'accord.
Oui, tout à fait. Donc, il y a ce projet à Lac, mais qui est à l'état de surveillance maintenant. C'est-à-dire qu'on a fait une expérimentation d'enfouissement de carbone. L'enfouissement est fini maintenant. Le gisement est rempli et on surveille ce qui se passe. Mais à l'heure actuelle en France, à ma connaissance, il n'y a pas pour l'instant d'autres expérimentations. Ce qui fait encore une fois qu'à l'échelle nationale, l'opposition à la géo-ingénierie, elle n'est pas... les leviers ne sont pas évidents. Si jamais demain on nous annonce des projets, de développement de projets, là effectivement il faudra entrer en résistance, en désobéissance civile contre ces projets. Et en attendant, ce qu'il faut surtout, c'est ne pas se laisser avoir à travers des objectifs vagues de neutralité carbone, ou ce qu'on ne dit pas derrière la neutralité carbone, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on parle de neutralité carbone ? Est-ce qu'on réduit les émissions ou on essaye de capter du CO2 ? C'est pas trop vaguement. Donc surtout être critique par rapport à ces objectifs penser que on y arrivera par des réductions d'émissions et pas seulement par de la captation de carbone. Et ne pas se laisser avoir également dans ces discours. J'en ai pas parlé, mais un des premiers effets qu'ont eu ces techniques de captation du carbone à la fin des années 2010, alors même que la technologie n'était pas du tout mature, qu'il n'y avait pas d'exemple, aux États-Unis et en Allemagne, Merkel et Obama respectivement, ont autorisé des ouvertures de centrales à charbon qui étaient très critiquées, et avec quel argument, en disant « oui, mais bientôt, on aura cette technologie disponible de captation carbone, et donc ce ne sera plus un problème ». Et donc ça, c'était il y a 10 ans, la technologie n'est toujours pas mature, et voilà, on s'est fait avoir. Donc là, il faut, encore une fois, être conscient de toutes les limites, de tous les risques de ces technologies pour ne pas se laisser avoir, et pour ne pas tomber dans ce piège.
Merci Kevin.
Merci.
C'était l'ours et la carotte. Écoutable sur Internet.